There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour à tous et bienvenue à Blunet, départ de cette 20e étape ou 20e épisode de cette transversale. Alors je vous avais laissé, j'étais sur la place du village de Blunet et j'étais hébergé chez Patrice. Et Patrice, il est agriculteur et il fait, entre autres, il fait beaucoup de choses, hein, mais il fait de la moutarde. Mais là, actuellement, il est en train de préparer son lapin pour dimanche, quoi.
Eh ben voilà, ce soir, j'ai un petit repas avec une douzaine de personnes, donc je cuisine deux lapins à la moutarde.
Évidemment, avec ta moutarde.
À faire. Alors, on en a fabriqué il y a quelques jours, là. Donc là, c'est en pleine maturation, là. C'est vraiment... Il faut absolument sentir.
Oh, la vache. Donc, voilà. Ça débouche les sinus.
Exactement, non, c'est très médical, c'est thérapeutique, c'est parfait. Ouais.
Et alors, comment ça t'est venu l'idée de faire de la moutarde?
Dans les années 95... Je faisais des céréales pour des copains qui avaient une microbrasserie et puis on cherchait tous un petit peu à développer nos productions agricoles. Et comme j'étais tombé sur un article où la graine de moutarde est utilisée par les moutardiers français était à 98% en provenance du Canada, je me suis dit, tiens, c'est peut-être intéressant de refaire une production française. J'ai réussi au bout d'un an à trouver de la semence et voilà. Et puis, comme ça intéressait à l'époque pas grand monde d'avoir une matière première française qui était un peu plus chère, j'ai eu la chance de rencontrer un moutardier à la veille de la retraite qui m'a aidé à mettre une moutarde au point. Voilà, et ça a commencé comme ça.
Et aujourd'hui, ça marche bien. Et
aujourd'hui, voilà, ça marche. C'est une niche de marché, hein, je précise bien. Je suis un agriculteur qui transforme ses graines de moutarde.
Voilà. Oui, parce que ça, tu fais tout, quoi.
Voilà.
Et tu vends ta moutarde qui s'intitule la moutarde de Provins.
À l'origine de la première recette, on avait trouvé ça sur un bréviaire de cuisine médiévale. Il fallait aussi localiser, je dis, moutarde de Blunet, ça, géographiquement ça pesait pas lourd, quoi. On avait profité finalement de cette ville inscrite à l'UNESCO pour la localiser. Voilà.
Et ta moutarde, on peut la trouver où?
Elle est surtout vendue finalement en région parisienne. Dans des boutiques comme Au Bout du Champ, et puis chez les restaurateurs, Le Verre Volé.
Et un petit conseil pour ta recette du lapin, t'as un petit truc que tu veux bien nous partager?
Alors moi, c'est très simple, je l'ai fait en cocotte, façon grand-mère, hein, donc il y a beaucoup d'oignons, il y a beaucoup d'ail, il y a beaucoup d'ingrédients. Je varie le vin blanc régulièrement, de manière à ne pas saturer le goût, que les gens ne mangent pas toujours la même chose. Et voilà, et surtout je badigeonne de moutarde à l'ancienne, parce que finalement elle se tient très bien avec la cuisson.
Et donc là, je suis accueilli par Patrice, qui très gentiment m'a ouvert sa maison, et je dis bien ouvert sa maison, parce que hier soir, il jouait au théâtre un petit spectacle. Enfin, je dis un petit spectacle, j'y suis pas allé, mais
c'était deux extraits d'opérette de La Belle Hélène et de Péricole.
En plus d'être agriculteur, il fait du théâtre. Et ça, c'est tous les ans, vous avez un spectacle?
Oui, c'est régulièrement, je répète une pièce par an.
Et l'atelier, si je puis dire, il est où? C'est à Blunet?
Il est basé. Non, l'atelier, on a la chance de répéter dans un très joli petit théâtre Napoléon III qui est situé à Nogent-sur-Seine.
Tu jouais où d'ailleurs?
On jouait à Gélannes, en banlieue de Romilly-sur-Seine. Oui, oui, c'est encore en France, hein, faut pas l'oublier.
C'est une tournée.
Exactement.
Et donc, voilà, donc il m'a laissé sa maison, j'ai pu faire mon montage. Il est revenu à 10h du soir. On a dîné avec deux spectatrices et...
Admiratrices d'Hervé.
Oui, oui, c'est vrai. Alors c'est rigolo parce qu'effectivement, il y avait Sabine et Marion qui écoutaient le podcast. Et voilà, ça m'a permis de rencontrer des auditrices. Et, alors que Patrice ne connaissait pas mon travail.
Non, pas du tout. Je n'ai pas de télévision et j'écoute assez peu la radio. Donc.
Voilà, donc c'était d'autant plus généreux de sa part de m'accueillir. Mais revenons à ta moutarde. Quand tu dis que tu l'as fait... Je vois ta ferme, je vois aucun bâtiment, enfin, genre de laboratoire où on pourrait imaginer. Tu fais tout ça dans ta cuisine?
Ah non, 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 non. Il y a un laboratoire qui est à l'autre bout de la maison et puis les bâtiments de l'exploitation sont à une centaine de mètres. J'habite pas sur le lieu de l'exploitation.
Ah, c'est ça, d'accord. Ouais.
Je te présente l'atelier que j'ai au bout de ma maison et où on fabrique la moutarde.
Ah, bah avec plaisir. Et donc, on sort et là, on est dans une petite cour. Ah oui, et donc là, on arrive dans l'atelier. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ces grandes citernes?
Ah ben là, on a vraiment une progression complète de la graine que l'on met dans cette cuve qu'on appelle une cuve à verjus. Hein. On fait tremper la graine avec de l'eau, du vinaigre, toute sa recette, les épices. Ensuite, quand c'est suffisamment détrempé, on envoie sur un moulin à meule de pierre, hein, qui fait à peu près 100 kg à l'heure. Et 500 kg, c'est la production maximum, 100 kg à l'heure, donc à peu près 5 heures. On transvase dans une cuve là-bas qui va désaérer la moutarde, histoire de la compacter un petit peu. C'est une émulsion, donc il y a quand même beaucoup d'air. Donc ça va la compacter un petit peu, et ensuite je mets dans les cuves, suivant les volumes. Voilà.
Et tu laisses macérer combien de temps ?
Oh, je laisse macérer une semaine à peu près. Donc, non, c'est relativement rapide. Ouais. Ouais. Mais bon, là, c'est assez conséquent. Il faut tout de suite avoir un gros volume de commandes pour...
Et quel est ton rêve, Patrice ?
Alors, mon rêve, je suis un petit peu embêté, j'en ai beaucoup. Donc,
j'ai le temps.
J'en ai pas mal. Alors, mes rêves, c'est souvent quelques projets quand même, parce que l'objectif d'un rêve, il faut au moins en réaliser un. Donc, indépendamment du voyage, c'est ça que je peux faire quand même de temps en temps. Le projet actuel, qui est un rêve, mais plutôt un projet, c'est de créer un atelier de cuisine un peu international, dans les prix du Bauhaus. Et ce que je fais parfois, j'invite des étrangers ou des étrangères à venir cuisiner. On leur donne les matières premières que l'on a sur notre territoire, hein, qui sont les céréales, le blé, le sorgho, ou la moutarde si l'on veut, d'autres produits, et puis ensuite on leur demande de le cuisiner à leur manière. Voilà, ça augmente un petit peu le champ d'investigation, finalement, des goûts qu'on pourrait avoir, on ne supporte pas. On a quand même le plus gros berceau de clientèle française, il se situe dans l'agglomération parisienne, hein, et donc finalement c'est quand même extrêmement international, et je trouve que c'est toujours intéressant de transformer avec d'autres lectures finalement des matières premières. Et je donne un exemple, j'ai un jour une Camerounaise spécialiste du sorgho qui est venue cuisiner. On fait du sorgho depuis quelques années maintenant, ça remplacera peut-être un peu à terme le maïs. Et aujourd'hui, on livre finalement les organismes stockeurs en vrac. Mais là, quand vous avez quelqu'un qui cuisine, qui vous fait 5 recettes à base de sorgho, tout d'un coup, il y a une dimension anthropologique et là, on redonne des noblesses à l'alimentation. Quoi.
Et qu'est-ce qui t'a amené en Seine-et-Marne ?
Écoutez, franchement, je suis né dans ce village, ça ne m'a pas empêché de vivre un peu ailleurs, mais je suis revenu dans ce village-là où je suis né. Ouais.
À Blunay.
Exactement, ouais.
Et un autre rêve ?
C'est un rêve qui est peut-être un peu court, non, j'ai quand même prévu de faire Saint-Jacques pendant 2 mois en partant du Puy, donc je recule un peu la date, puis un jour, non, ça va se faire. Je ne sais pas quel jour, mais un jour je me réveillerai et je dirai, tiens, c'est en ce moment, voilà.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans ?
Je trouve que c'est bien. D'abord, cheminer, je trouve que ça, vagabonder littérairement, c'est plutôt intéressant. Je sais qu'on rencontre pas mal de gens sur la route, même si c'est pas le principe, mais on fait un peu une rupture sur image dans sa vie. Je veux dire, voilà, tiens, on fait un break, et puis finalement, ça permet de reposer les choses. On doit ruminer finalement pas mal d'idées, des souvenirs, et ça, et je pense que c'est assez enrichissant. Ouais.
Je te confirme. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je suis arrivé chez Patrice parce que c'est un ami de Didier, chez qui je suis passé à Charmoix, vous vous rappelez, le créateur du jardin botanique de Marnay-sur-Seine et aussi le sculpteur de Gustave Flaubert. Voilà, comme ça, vous avez la chaîne des rencontres qui me fait avancer. Et normalement, aujourd'hui, si tout se passe bien, j'arriverai à Donne-Marie-Dontilly. Je n'ai pas encore d'hébergement, mais j'ai envoyé un message à la mairesse. Alors, j'ai bon espoir. Bon, en tout cas, Patrice, merci beaucoup pour ton accueil. Et puis, je te souhaite bon lapin à la moutarde, évidemment. Et puis, à une prochaine fois, j'espère.
Et bonne chance pour ce vagabondage littéraire et de rencontre. Voilà, et bon chemin.
Et toi aussi, bon chemin, si tu fais le chemin de Saint-Jacques, je te le souhaite.
Oui, c'est prévu. Merci. Au revoir.
Allez, salut. Ciao. Patrice, ciao. Il est 8h30, les tourterelles sont sur les fils. Et je retraverse Blunay, ces jolies maisons en pierre apparente, de temps en temps une grande ferme. La température est de 14 degrés, le ciel est gris, on n'annonce pas de pluie. Et j'emprunte la rue Saint-Jacques. Un bon signe pour cette étape.
Et Patrice, il m'a impressionné, a commencé à faire mijoter son lapin à 8h30 le matin, pour le soir. J'aurais aimé rester là ce soir pour le goûter.
Il est étonnant par le nombre de projets qu'il a. Il a ouvert un restaurant à un moment à Provins. Là, actuellement, il restaure un lieu dans Provins pour essayer justement de faire cet atelier de cuisine un peu international. Où est le chien ? C'est juste qu'il y a un promeneur qui passe, c'est pour ça. Ah bonjour madame.
Oula.
Et donc je passe dans la rue Saint-Jacques. Et il y a une dame qui dit à son chien de se taire.
Est-ce que je peux avoir votre prénom ?
Nora.
Moi, c'est Hervé. Ah, mais il y a un autre chien ici.
Oui, il y a plein de bêtes ici.
Quel est votre rêve, Nora ?
Mon rêve ? Bah, il est réalisé, mon rêve. Ma maison, mes animaux, c'est tout. Voir plus tard une petite maison en Bretagne, mais bon.
Deux maisons, alors, vous voulez ?
Non, on vendrait ici et on irait en Bretagne.
Et vous voulez aller où en Bretagne ?
Je sais pas, Côte Sauvage, je sais pas. Je sais pas.
Ça tombe bien parce que moi, je vais de Strasbourg à Brest. C'est pour ça, vous auriez pu m'héberger en Bretagne si vous aviez déjà votre maison.
Bah pourquoi pas.
Bah écoutez, je vous le souhaite, Nora, et je vous souhaite un bon dimanche.
Merci à vous aussi, puis bah bon interview aux gens que vous croisez.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Et au revoir. Et ne grondez pas votre chien, hein, il aboyait parce qu'il y avait un promeneur.
Oui, mais moi, je ne vois pas d'ici, donc... Voilà. Allez, bonne journée.
Merci, vous aussi, au revoir. La fenêtre avec les volets bleus de Nora donnait sur la rue Saint-Jacques. Et là, le colza, un tapis jaune qui va jusqu'au bois, sur ma droite et sur ma gauche, des éoliennes au loin, des champs de blé et un petit potager qui longe le chemin. Alors j'étais interrompu par les aboiements et Nora quand je vous parlais de Patrice. Il faut savoir que sa moutarde, il fait différents parfums. Par exemple, là, j'ai vu une étiquette de moutarde à la rose. Et gentiment, hier, il me dit, bah quand même, il faut que tu vas passer à côté de Provins, là, il faut que tu vois Provins. Alors, il m'a emmené à Provins, j'ai visité un peu tout ce centre historique interdit aux voitures. Bon, c'est un côté un peu Disneyland. Comme me disait Patrice, Troyes a été mieux restauré que Provins. Là, il y avait des maisons à colombages sur la place du village, les colombages étaient peints en rouge. Bon, c'était pas du meilleur effet, mais voilà. Et quand on est passé au pied de la tour César, dans le centre de Provins, et ben là, il y a une petite vigne qui fait à peine 1000 mètres carrés, quoi. Et là, j'ai rencontré Patrice, qui était en train de travailler sa vigne avec son sécateur. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait dans sa vigne.
Je suis en train de tailler la vigne pour lui permettre de faire une belle production, saine et abondante, en 2024.
Et c'est quoi comme vin ?
Uniquement du vin rouge ici, bien que j'ai quelques cépages de blanc et de gris. Mais je préfère les vins rouges parce que c'est bien meilleur pour la santé, surtout pour les personnes qui sont cardiaques.
Ah bon ?
Parce que les vins rouges sont ceux qui ont entre 50 et 100 fois plus de polyphénol utile pour la santé par rapport aux vins blancs et aux vins rosés. Quand on cherche plutôt la santé, on va plutôt vers le rouge. Maintenant, il y a des contradicteurs qui pensent que pour certaines personnes, le vin blanc est meilleur. Mais il en faut pour tous les goûts.
C'est vrai que ça ne fait pas rêver de se dire qu'on est vigneron en Île-de-France. On préfère se dire vigneron justement dans le Bas-Rhin ou vigneron dans le Bordelais ou dans le Rhône. Quoi.
Oui, avec une petite préférence pour l'aroma des Conti quand même.
Voilà, on est d'accord.
Non, si, ça fait rêver quand même beaucoup de personnes parce que beaucoup de vignerons sont surpris de la qualité du raisin que l'on peut obtenir dans des régions septentrionales, donc l'Île-de-France viticole historique pour nous. Le réchauffement climatique lié, bien sûr, un petit peu pour quelque chose, ça facilite quand même la maturité des raisins, ça c'est évident, parce que quand il y a eu des petites périodes, notamment pendant le règne de Louis XIV, c'était le petit âge glaciaire, et évidemment, le raisin avait quand même du mal à mûrir. Voilà. Bon. Donc, il ne faut pas rêver de trop, mais il faut rêver quand même parce qu'on a déjà de bons résultats, on a déjà plus de 1000 hectolitres de vins qui ont été agréés en IGP Île-de-France. C'est donc déjà encourageant.
Quel est votre rêve, Patrice ?
Ah, mon rêve, de faire de magnifiques bouteilles d'un excellent vin rouge qui soit vraiment excellent pour la santé. Je fais des vins rouges à l'heure actuelle qui sont très bons en polyphénol, mais il y a quand même l'acidité. Comme je n'ai pas voulu corriger l'acidité pour rester au plus près des vins qui ont le moins d'intrants phytosanitaires, là j'ai encore un effort à faire. Il faut qu'avec l'aide de quelques œnologues, je corrige un petit peu mon itinéraire de vinification. Mais je pense y arriver, si tout va bien, d'ici 2-3 ans à faire, avec des cépages résistants, car ici, vous ne le savez pas, mais tous les cépages qui sont présents ici sont des cépages résistants au mildiou et à l'oïdium. Ici, je ne fais aucun traitement dans l'année.
Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le vin ?
C'est une aventure. Moi, je suis un fils de paysan du Périgord qui avait une vigne. Et je me souviens donc, enfant, des vendanges que l'on faisait, du vin que faisait mon père, qui avait un excellent arôme de framboise. Et puis, quand je suis arrivé à Paris, dans le cours de mes activités professionnelles, je me suis trouvé invité à une vendange dans le 12e arrondissement, et j'ai découvert que dans Paris, il y avait des vignes, et là, j'ai été surpris parce qu'il y avait le premier pied de vigne, il faisait 55 cm de circonférence à la base, une pergola qui était à 3 mètres de hauteur, et c'était la fête parce qu'il y avait des personnes avec des accordéons, des instruments de musique, etc. Donc voilà. Et à partir de là, j'ai aidé ces personnes-là à faire du vin jusqu'en 1999. Et puis, ben, c'est comme ça que le virus s'est installé.
Eh ben, je vous remercie beaucoup. Et je peux faire une photo ?
Oui, oui, on peut faire une petite photo. Je vais mettre mon sécateur. Voilà. La fleur de pissenlit. Hop, je la regarde, cette fleur de pissenlit. Je regarde si elle est bien nette. Elle est propre parce qu'il n'y a pas d'animaux qui viennent ici, renard, chien, chat, voilà, parfait. Vous allez pouvoir manger d'un seul coup ici la fleur, voilà, ouais. Pas morceau, vous allez avoir différences de goût bien sûr entre les pétales, les étamines qui sont ici, elles sont très nombreuses, et puis après le reste, la tige, voilà. Je vous laisse déguster. Si vous voulez déguster du primevert, on peut déguster du primevert aussi.
Ah oui ?
Oui, mais... c'est pas le même goût. Hein.
Ah non, c'est pas pareil. Hein. Voilà. Bah, comme ça, j'ai plus besoin de me faire de pique-nique, je peux manger tout ce que je trouve sur le chemin. Quoi.
Attention, attention, pardon. Parce que là, vous voyez, vous êtes devant l'ail des vignes. Ce n'est pas l'ail des ours. Hein. La distinction, c'est que l'ail des ours, lui, il a des feuilles de forme lancéolée. Alors que l'ail des vignes, il a une feuille en forme de tige qui est avec une cannelure.
Un peu comme la ciboulette.
Alors, la ciboulette est entièrement ronde, elle n'a pas de cannelure.
D'accord.
Voilà.
Eh ben, je vous remercie pour ce partage de savoir et ce petit pique-nique.
Je vous dis, ici, on peut faire de la gastronomie avec les produits vraiment locaux. Et on en a presque toute l'année. Hein.
Faudra que je revienne l'hiver pour voir ce qu'on peut déguster dans ce jardin gastronomique. Petite précision, Patrice Bersac est le président du syndicat des vignerons d'Île-de-France. Donc, il connaît bien son sujet. Et vous savez quoi ? Eh bien, il commence à pleuvioter. Mais bon, j'espère qu'il n'annonçait pas de pluie. Donc moi, je n'ai pas sorti les vêtements de pluie. J'ai pas mis la housse sur le sac. J'ai les pieds légèrement humides parce que l'herbe est bien humide. Et je vais en profiter pour vous lire quelques messages que vous m'avez adressés sur hervé.pochon@gmail.com. Béatrice, bonjour Hervé. Sachez tout d'abord que j'ai écouté tous vos épisodes de podcast, donc je suis une fidèle. Depuis le temps que j'écoute aussi vos lectures de mails et autres auditeurs, je prends le temps de vous en écrire un. J'ai regardé le travail du sculpteur Didier Rousseau-Navarre. Pas rien, l'artiste. Donc, merci pour vos voyages. Ah oui, mon rêve, faire le tour de la France en bateau, en passant et par la mer et par les rivières et canaux. Sète, Bordeaux, rentrer à Nantes, sortir en Normandie, reprendre au Havre, descendre à Marseille et retour par la Méditerranée. Et ce rêve perdurera puisque je ne pourrai jamais le réaliser. Les aléas de la vie. À ce soir, Hervé. Merci, Béatrice, et bonne navigation par la pensée. Un autre message. Salut Hervé, je m'appelle Julien et j'ai 32 ans. Fervent fidèle de tes balados depuis Saint-Jacques, tes épisodes pendant tes périples m'ont permis de débuter mes journées avec un état d'esprit positif en allant au travail. Grâce à toi, j'ai voyagé au travers de tes balados et c'est tellement génial. Pour répondre à ta question « Quel est mon rêve ?», mon rêve serait de pouvoir marcher sur les chemins du monde entier avec ma fiancée et nos deux chiens, Irun et Oksu, prénom basque de l'origine de ma compagne, et de pouvoir faire des rencontres simples en dormant chez l'habitant en retour d'un service ou d'une aide. Et mon deuxième rêve, pourquoi pas deux, hein, serait de pouvoir construire ma petite maison en bois près du littoral breton, dans les Côtes d'Armor. Autre chose, depuis que je t'écoute, je me suis dit que j'aimerais pouvoir te rencontrer. Et Eureka, je pense que pendant ta traversée en Bretagne, il se pourrait que tu passes non loin de chez moi. J'habite du côté de Moncontour de Bretagne, petite cité médiévale de caractère. Il y a un dynamisme sur ce territoire où il fait bon vivre. Je te conseille de faire un stop dans ta traversée. Et bien évidemment, je serai honoré de t'inviter à dormir à la maison. Elle est grande et tu pourras faire sécher tes chaussures et tes chaussettes. À bon entendeur. Ciao. Ah bah merci Julien, parce qu'encore aujourd'hui, tu vois, je suis parti avec mes chaussettes humides, le caleçon humide et le t-shirt humide. Voilà, vous savez tout. Et visiblement, c'est pas pendant cette étape que ça va sécher, puisqu'il pleuviote. N'hésitez pas, pour moi la Bretagne, c'est encore loin. Mais quand j'approche, vous me faites signe. Pour vous dire, j'ai pas beaucoup d'hébergement en Seine-et-Marne. Françoise. Bonjour Hervé. J'ai été très ému en écoutant ta balado ce matin et l'annonce du décès de Patrick par ses deux fils, Théo et Corentin. Je n'avais pas saisi le nom du village. C'est ta mention du four à Gueulard de Guillaume, le boulanger, qui a attiré mon attention et m'a fait réaliser que tu étais à Villadin, où je me suis rendu par deux fois, il y a une dizaine d'années, pour aider Patrick avec d'autres amapiens parisiens. Les amapiens, hein, c'est ceux qui sont dans les amap.
Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Je referme la parenthèse et Françoise poursuit. Une première fois, je l'ai aidé à repiquer des plants de salade, une deuxième fois pour préparer une fête à la ferme. Ce ne sont que des bons souvenirs avec entre autres la nuit passée dans la chambrée située au-dessus du four où la température était plus qu'agréable. Et les récits passionnés de Patrick relatant la vie de sa ferme, militant pour l'agriculture biologique, faisant découvrir des légumes alors inconnus pour moi comme les panais, les topinambours ou les différentes courges. Forte de cette expérience, j'essaye à mon tour de faire pousser quelques légumes dans mon jardin, maintenant que je vis en Bretagne Nord, trop au nord je le crains pour que ton chemin passe devant chez moi. Quant à la question que tu ne manques pas de poser à tes interlocuteurs, je réponds, je rêverais de vivre dans une société engagée vers la sobriété. Bon chemin, Hervé. Merci Françoise et merci d'évoquer Patrick qui est décédé il y a 2 ans suite à un accident de tracteur. Ça me permet de repenser à Corentin et Théo et Anne-Marie, leur mère, qui essayent de prolonger le travail initié par Patrick. Et là, je continue à longer une haie et un champ de colza. Et puis j'ai pu voir des traces de fer à cheval et du crottin. Et là arrivent 2 chevaux. Bonjour! Donc est-ce que je peux tendre mon micro vers vous pour avoir votre prénom d'abord?
Disons. Anne-Claire.
Vous allez où à cheval?
On rentre aux écuries.
Ah, je suis passé devant, c'est là où il y a j'ai vu une espèce de parcours de saut d'obstacles.
Oui, c'est ça.
Ah, oui. Et vous vivez là?
Non.
Non, ah bon?
On vit à 10 minutes.
Ah, d'accord. Et alors, vous faites une balade comme ça tous les dimanches matin, vous essayez?
Plusieurs fois par semaine, oui.
Ah oui. Et ce sont vos chevaux?
Oui.
Alors, il s'appelle comment votre cheval?
Dahlia.
Et vous lui mettez une protection sur le visage à cause des mouches?
Oui, pour les bêtes.
Il y a beaucoup de bêtes en ce moment?
Là, ça va, mais ça va commencer à arriver, oui.
Quel est votre rêve?
Mon rêve? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Non, c'est pas une blague.
Vous avez quel âge?
20 ans.
Et vous faites quoi dans la vie?
Je suis cavalière.
Ah, c'est votre métier?
Bah, j'ai de mes chevaux et je monte mes chevaux, oui.
Et vous gagnez votre vie comme ça?
Non. C'est mon loisir pour le moment.
Ah oui, mais vous voulez gagner votre vie avec ça?
Non, pas forcément.
Ah oui. Et à 20 ans, vous n'avez pas un rêve?
Ben non, c'est bizarre, hein, mais non.
Donc, je vais poser la question à votre copine. Si jamais il y a un rêve qui vous revient, n'hésitez pas.
Alors du coup, la question sur le rêve, quel est mon rêve? J'ai déjà beaucoup de choses que je voulais, donc... Mais continuer la vie ainsi, hein.
Qu'est-ce que vous vouliez alors?
Bah, écoutez, avoir un cheval, pouvoir monter en concours, avoir un enfant, avoir une famille, avoir un mari, avoir une maison. A priori, jusque-là, tout va bien.
Ah oui.
Donc, autant continuer sur cette lancée.
Et vous gagnez votre vie comment?
Je suis avocat. C'est moins fun.
Non, c'est bien. Moi, je trouve, avocat, vous défendez les plus faibles.
Oui, pas forcément toujours. Je défends des gens. C'est pas forcément les plus faibles.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous plaît, justement, dans votre métier?
À peu près tout, faire du conseil, suivre les entreprises au quotidien et les aider dans leur développement, dans leur croissance.
Quand je vous vois à cheval dans ce cadre de campagnard et tout ça, mais vous vivez où?
Je vis à Provins et je travaille à Paris.
Ah, vous êtes avocate à Paris?
Oui.
Et là, vous faites les allers-retours Provins-Paris
pas tous les jours, une fois par semaine.
D'accord, ça veut dire que le reste du temps, vous travaillez en télétravail ici ou...
Tout à fait.
Ah, d'accord. Bon alors, lisons, toujours pas de rêve?
Non, j'ai pas de rêve.
Qu'est-ce qui vous motive dans la vie aujourd'hui?
Monter à cheval.
Et alors, quel est votre plaisir dans le fait d'être sur votre cheval?
C'est un sport de remise en question constamment.
Ah oui?
Et ouais, ça met un peu d'attraction dans la vie.
En quoi ça vous remet en question d'être sur votre cheval?
Faut toujours penser pour les deux, pas que pour soi. Donc en fait, quand l'un ne va pas, l'autre ne va pas, et on se remet tout le temps en question par rapport à ça.
Les deux vont bien ou...
Ah oui.
Ouais.
Les deux vont très bien.
Bon retour à l'écurie.
Bah merci, bon courage à vous.
Merci. Et je laisse repartir les 2 cavalières. Alors c'est marrant parce que cette nuit j'ai fait un rêve et je me suis réveillé et je me suis dit « Ah, il était super et tout !» Et je n'arrive pas à me rappeler de ce rêve. Je me suis réveillé heureux. Donc, j'essaye de retrouver ce rêve heureux. Et le chemin pénètre la forêt. Hop, 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 hop. Oh, le chemin il est boueux, là j'aurais aimé être à cheval. Que ce soit le cheval qui mette ses sabots là-dedans. Parce que dites donc, c'est spongieux. Oh là là, puis ça se gâte en plus. Je vois les moustiques qui volent sur les flaques d'eau jaune.
Oh, Burk ! Je repense à ce que me disait Patrice ce matin. Oui, comme il y a deux Patrice, je précise, Patrice Boudigna et ses moutardes, qui parlaient de vagabondage littéraire. Moi, je dirais presque que c'est un vagabondage psychologique. On est confronté à cette solitude. Parce que sur un podcast, vous avez l'impression que c'est une succession de rencontres. Mais c'est plutôt une succession de plages de solitude qui sont propices à moult réflexions sur la vie, sur ma vie. Et là, j'ai les pieds dans la gadoue. Est-ce que c'est un message par rapport à mon chemin de vie? Je le saurai bientôt. Et je sors du bois. Et quoi? Du colza? Je rigole, mais c'est quand même... C'est magnifique, quoi, ce jaune-là qui descend dans la vallée, là, et au loin, des forêts, des silos, des petites étendues d'eau, et un ciel toujours gris. Mais les quelques gouttes ne se sont pas transformées en grosses douches. Donc tout va bien. Alors, je me suis sorti de la gadoue, sans me vautrer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis après, ben, j'ai traversé Goué. Alors là, j'étais content, parce qu'il y avait une boulangerie, donc j'ai pu m'acheter un petit pique-nique. Je n'ai pas mangé que les pâquerettes dont m'avait parlé Patrice. Néanmoins, j'ai quand même trouvé sur le chemin de l'ail des vignes, et j'étais très content d'agrémenter ma tarte épinard fromage de chèvre avec de l'ail des vignes. Puis après, je suis passé à Chalmaison, Jutigny. J'ai traversé Ténésie. Et là, j'arrive à Donne-Marie, d'Antilly. Je suis passé devant les immenses silos à grains qui sont à l'entrée. Et malheureusement, la mairesse m'a envoyé un gentil message pour me dire qu'elle était en déplacement et qu'elle ne pouvait pas me trouver de solution. Donc, je vais chercher. Les Sabines que j'ai rencontrées hier chez Patrice avaient l'air d'avoir un beau réseau. Bon, j'en profite pour féliciter mon fils Zachary qui a terminé le marathon de Paris en 3h47. Et alors quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit « Ça va, t'étais à bout à l'arrivée ?» Il me dit « J'ai été à bout tout le long. » Ben, je lui dis « Alors comment t'as fait pour... Ah, au mental, papa, au mental. » Eh ben, bravo. Moi, j'ai jamais fait un marathon. La température est de 20 degrés. J'ai pas eu de grosse pluie. Là, il y avait même un petit soleil derrière le ciel blanchâtre. Donc... C'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai quand même les chaussures un peu mouillées parce que l'herbe était quand même bien humide. Et la gadoue, on n'en parle pas. Et là, je passe au milieu d'arbres fleuris. Je pense que c'est un poirier avec ses jolies boules blanches. Et un peu plus loin, un cerisier du Japon avec ses belles fleurs roses. Et une jolie église, Donne-Marie d'Antilly. Encore deux villages qui se sont associés. J'ai marché 7 heures. Bon, eh bien, écoutez, si vous voulez savoir si je vais passer ma première nuit à la Belle Étoile à Donne-Marie d'Antilly, je vous donne rendez-vous dès demain, 6 heures. D'ici là, portez-vous bien, bonne balade à tous et ciao ! Ça résonne dans la ruelle de l'abattoir.